Le radon, un risque mal connu, avec Sylviane Poulenard.
Je vais vous parler du radon. Alors déjà préciser, la CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc c'est une association qui s'est créée au lendemain de l'accident de Tchernobyl. Donc certains peut-être s'en souviennent, en tout cas les plus anciens. Et donc c'est à ce moment-là donc que la CRIRAD donc s'est créée en montant donc un laboratoire, puisqu'on s'est dit la meilleure façon en fait d'avoir des informations, c'est d'avoir nos propres instruments de mesure pour pouvoir donc informer de façon indépendante la population. Alors pourquoi l'intituler le radon un risque mal connu? Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur le radon, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que là où ils habitent, ben, ils sont complètement à l'abri de ce risque. Donc on va un petit peu démonter, je pense, pour certains, justement, cette idée. Alors, le radon est un très vieil habitant de la Terre, puisqu'en fait, il fait partie de la famille donc de l'uranium-238. Donc vous voyez ici toute la famille de l'uranium-238 qui arrive donc jusque... Donc vous avez différentes désintégrations et on arrive donc au final au plomb donc 206 qui lui est stable. Par contre, tous les autres donc radioéléments là sont sujets à désintégration. Et vous voyez que le radon, on va le retrouver ici. Voilà, la Terre donc s'est créée il y a à peu près 4,5 milliards d'années. La période physique de l'uranium-238, c'est aussi 4,5 milliards d'années. Donc depuis la création finalement de notre planète, il y a seulement la moitié de cet uranium donc, qui a disparu. Donc il va falloir encore attendre 4,5 milliards d'années pour que ça diminue à nouveau de moitié, etc. Donc de l'uranium-238, on en a encore pour un certain temps. Et par là même, donc, le radon. Alors, le radon, quelle est sa spécificité? Eh bien, c'est qu'il est gazeux. C'est-à-dire que tous les descendants de l'uranium-238, à ce niveau-là, au niveau du sol, ils ne créent pas forcément donc, des dommages tant qu'on ne les dérange pas trop. Hein. Là, je fais référence au problème donc, des sites miniers. Par contre, le radon, lui, a cette propriété donc, de sortir du sol. Et il va donc se désintégrer hein, en polonium-218, qui lui-même se désintègre donc en plomb-214, etc. Donc vous voyez qu'il y a quatre radioéléments là, qui sont les descendants du radon. Et on va voir pourquoi, quel rôle il joue en fait, justement, dans le risque radon. S'il y a quand même des choses que vous ne comprenez pas, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour éclaircir des choses. Du radon, donc, il y en a partout. Partout, c'est vraiment un élément qu'on va retrouver sur toute la planète, puisqu'il est présent dans l'écorce terrestre. Donc ici, en fait, c'est une étude allemande qui montre bien, hein, donc il y a 6712 sols qui ont été étudiés, des sols de différentes compositions. On a fait des mesures donc à un mètre de profond, et en fait, on voit bien hein, que là, ce sont des milliers de becquerels. Alors, qu'est-ce que c'est les becquerels? C'est l'unité de mesure hein, de la radioactivité qui permet donc d'apprécier hein, justement quelle est la quantité donc, de radioactivité donc, ici au niveau du radon. Donc, on a 2 à 4. Vous voyez que déjà, on a 100 cas, donc 100 sols. Hein, on est au-dessous de 100, légèrement au-dessous de 100. Qui ont entre 2000 et 4000, donc qui contiennent entre 2000 et 4000 becquerels par mètre cube dans le sol. Donc, sachant qu'un becquerel, ça correspond à une désintégration donc par seconde. D'accord ? Donc, dans un mètre cube d'air au niveau du sol, on va se retrouver ici, pour cette première tranche, entre 2000 et 4000 becquerels. Donc, ce n'est pas des niveaux déjà anodins, mais encore moins anodins quand on est donc ici, hein, parce que du coup, on est dans les millions de becquerels sur certains sols. La valeur médiane, donc, elle est ici, c'est 98 000 hein, becquerels. Voilà, ce qui correspond là aussi quand même à... Donc, vous voyez qu'on a vraiment donc de ce radon, on va en retrouver dans tous les sols, et pas seulement, comme il se dit parfois, dans les sols granitiques. Alors, le radon, c'est une vieille histoire, et pourquoi s'en préoccuper aujourd'hui ? Hein, comme disaient certains membres des autorités SCPRI dans les années 80, l'homme de Cro-Magnon a bien vécu avec le radon, pourquoi nous, on ne vivrait pas donc avec lui ? En fait, bien sûr, je suppose que vous ne vivez pas comme l'homme de Cro-Magnon. Et on sait que le temps passé à l'intérieur des bâtiments donc, est beaucoup plus important. Et il est de 90%, c'est-à-dire que nous passons 90% de notre temps à l'intérieur donc de bâtiments. D'où l'importance, parce qu'on va voir qu'en fait, là où il va poser problème, le radon, c'est pas à l'air libre, mais c'est à l'intérieur donc des bâtiments. Et en plus, on a de plus en plus des bâtiments confinés. Alors c'est vrai que c'est bien parce qu'on fait des... Bon, j'ai fait exprès de mettre trop... parce qu'il y en a qui vont protester, parce qu'il y en a qui vont dire « oui, mais on fait des économies d'énergie, etc. » C'est vrai, ça permet effectivement de faire des économies d'énergie, mais en même temps, c'est pas non plus très sain de vivre dans une construction donc qui est trop fermée, hein, où il n'y a pas de ventilation, d'aération. Pourquoi il pose problème ? En fait, les constructions sont plutôt donc en dépression donc par rapport au sol. L'air dans les habitations est plutôt en dépression par rapport au sol. Donc il y a de toute façon un phénomène de convection, hein, d'aspiration en fait du radon qui est dans le sol, qui va être accentué dans les périodes d'hiver par le fait qu'on va chauffer. Donc ça va encore accroître l'effet cheminée. Et donc encore plus donc augmenter donc l'aspiration du radon. Donc c'est vraiment le phénomène le plus important, la convection, puisque c'est vraiment celui qui va nous apporter donc le plus de radon. Je vous ai quand même mis à côté donc la diffusion là ici à l'air libre par exemple. Bon, le radon va s'échapper du sol et il va se diffuser donc dans l'air, il va se disperser dans l'air. Donc on a à peu près 10 becquerels après au niveau de l'air par mètre cube d'air, c'est un niveau en fait qui est tout à fait vivable, on va dire, acceptable. Comment rentre-t-il dans nos constructions ? Donc vous voyez déjà l'importance des différents apports en radon. Le sol, c'est vraiment 80%. Ensuite, vous avez donc les matériaux de construction sur lesquels donc je vais pas trop m'apesantir. On verra au niveau de la réglementation. Je sais qu'il y a des changements qui vont arriver. C'est 15 à 20% selon les types de matériaux donc qui vont apporter, hein, on va dire, du radon dans les constructions. L'eau, vous voyez qu'il y en a une petite partie. Ça va se faire à travers donc les voies d'évacuation ou les voies d'approvisionnement d'eau. Voilà, ça peut passer dans les canalisations ou sur le pourtour des canalisations. Et on voit bien que l'air extérieur, hein, c'est intéressant parce que c'est inférieur à 5% de l'apport en radon. Donc on va pouvoir utiliser cette capacité finalement de l'air à pouvoir donc nous apporter finalement un air plus sain, donc moins chargé en radon. Donc vont être impactés bien sûr les niveaux qui sont complètement construits sur le sol, mais le radon va migrer ensuite sur les étages donc supérieurs de la maison. Et on verra après, peut-être il y aura des questions sur qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux, à quel endroit il vaut mieux mesurer pour savoir. Le radon donc peut se dissoudre dans l'eau. Donc si vous avez un puits souterrain, donc là aussi vous allez ramener du radon donc par exemple au niveau de la douche. Et donc vous allez aussi donc inhaler finalement ce radon qui arrive donc par la douche. Alors vous avez vu que je parle surtout donc de respirer, d'inhaler. En fait, il y a tout à fait une raison, c'est que vu que c'est un gaz, le radon, donc on va le respirer. Donc il n'est pas métabolisé par l'organisme. Mais comme je vous ai dit, donc il a des descendants, parce que le radon lui-même, en fait, sa période physique est de 3,8 jours. Donc on peut dire qu'il va très rarement, en fait, se désintégrer à l'intérieur de notre organisme. Par contre, il emmène avec lui, c'est-à-dire qu'il est vecteur, il emmène avec lui ses proches descendants, là, les quatre que je vous ai montrés tout à l'heure, qui, eux, ont des périodes physiques très très courtes. Hein. Certains, c'est des millièmes de secondes, donc d'autres, des minutes. Et ce sont ces descendants-là qui vont créer des dommages à l'intérieur des voies respiratoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur, il y a des rayonnements donc alpha, ce sont des rayonnements à forte énergie qui vont bombarder en fait les tissus et pendant toute la durée, donc où ils vont rester donc à l'intérieur. Donc ils vont se désintégrer à l'intérieur. Il va y avoir les désintégrations successives hein, que je vous ai montrées donc tout à l'heure avec les différents types de radioéléments. Responsable donc de 1 500-3 000 décès par an en France actuellement, on parle plutôt d'ailleurs de 3 000. Donc c'est pas du tout anodin. Je crois que les accidents de la route c'est autour de 3 400. Donc on fait beaucoup d'informations effectivement à juste titre hein, sur les problèmes routiers. On informe un peu moins et pas suffisamment donc la population sur le risque. Sur le risque radon, d'autant qu'il y a hein, des solutions, donc on va le voir. Depuis quand c'est connu, en fait, ce problème de radon ? C'est déjà Paracels qui avait observé au niveau des mineurs tchécoslovaques. Il avait observé qu'il y avait une étrange maladie dont ils étaient frappés, qu'il a appelée la maladie des métaux. Et en fait, bon, il n'a pas su, hein, il n'a pas su dire ce que c'était. Ce sont surtout les travaux de Marie Curie qui ont permis d'identifier justement le radium et donc le radon. Hein, le radon étant le descendant donc du radium. Donc, dans un premier temps, on a surtout pensé donc aux travailleurs donc des mines. Donc, il y a eu quelques études. On a aussi donc veillé à protéger. Parfois, pas toujours, pas suffisamment en tout cas, les travailleurs donc, des mines, pas seulement des mines d'uranium, mais de toutes les mines, hein, puisqu'ils avaient tous été plus ou moins exposés. Et puis, on a commencé à faire quelques études donc, sur la population, qui n'étaient pas suffisamment, en fait, qui n'ont pas suffisamment établi finalement la responsabilité du radon dans les cancers, etc. Il a fallu attendre donc plusieurs méta-études, dont celle-ci, donc à partir de 13 études cas témoins européens. Donc on a pu effectivement donc comparer, il y avait deux populations témoins, on a fait des études sur les fumeurs et les non-fumeurs, puisqu'on savait déjà que le tabac était un facteur donc de cancer du poumon. Et donc, il y a quelques conclusions là que je vous livre hein, ici. Le risque de cancer du poumon existe de toute façon dès qu'il y a du radon. Donc, c'est comme pour toute radioactivité. Dès que vous avez donc, dès que vous augmentez le niveau de radioactivité, vous augmentez de toute façon le risque. D'accord ? Donc, il existe dès qu'il y a du radon. En effet, donc, c'est la relation dose-effet qui est importante à souligner, c'est que c'est linéaire. Surtout au-delà d'ailleurs de 100 becquerels hein, par mètre cube. En dessous, on n'est pas trop sûr encore. Mais en tout cas, à partir de 100 becquerels, la relation dose-effet, c'est-à-dire par rapport à la dose, quel va être l'effet sur mon organisme, cette relation, donc, elle est linéaire. Si j'ai deux fois plus d'exposition, j'ai deux fois plus donc, de risques. Donc on est bien d'accord, on parle ici en termes de risque. Hein. Ça ne veut pas dire que systématiquement, si vous êtes exposé donc, au radon, vous allez prendre un cancer du poumon. Hein. Donc c'est un risque qui existe. Et puis important, bien sûr, le risque pour les fumeurs qui est de 20 à 25 fois plus élevé que pour les non-fumeurs. Donc c'est une espèce d'effet, c'est-à-dire que ce n'est pas cumulatif, ça ne s'ajoute pas, mais c'est multiplicatif en fait. Donc, est-ce que les engrais donc utilisés pour le tabac donc jouent un rôle là-dedans? Donc là, il y a encore beaucoup de choses donc à investiguer, quoi. Donc, vous voyez la comparaison pour les fumeurs et non fumeurs pour 100 personnes exposées. À 100 becquerels, on n'a même pas donc un non-fumeur donc qui peut mourir par cancer du poumon. Par contre, on a 12 fumeurs. Et à 400 becquerels, on n'a toujours pas un non-fumeur, mais on a donc 16 personnes sur 100 donc, qui courent donc ce risque de mortalité par cancer du poumon. Donc cette étude européenne, elle a été aussi, elle est arrivée au même résultat qu'une étude états-unienne et indienne. On est sûr maintenant, en tout cas, de ces éléments. Ce graphique est intéressant parce que donc c'est l'Institut national de veille sanitaire qui a essayé de faire le rapport entre le pourcentage d'individus exposés. Donc là, vous avez les niveaux d'exposition au radon, 0,99, 100 à 199, 200, 299 et plus de 400. Donc pourcentage d'individus exposés. Et donc là, vous avez 75%, 76% de personnes exposées donc en dessous de 100 becquerels par mètre cube. Et la correspondance en termes de décès, c'est-à-dire que ça correspond à 47% de la population, soit 1497 décès. Donc c'est intéressant parce que ça montre que si on veut mener une politique de santé publique, il ne faut pas se contenter, on en reparlera de ce seuil de 400 becquerels, mais actuellement la réglementation, elle fixe certaines obligations de contrôle et donc d'abaissement si on dépasse les 400 becquerels par mètre cube d'air. Donc cette réglementation, donc elle est complètement insuffisante, elle permet de ne couvrir en fait, enfin de n'éviter que 277 décès. Donc on voit bien que si on voulait vraiment avoir une politique de santé publique qui touche le maximum de gens, déjà ne serait-ce que la moitié de la population, il faudrait qu'on ait donc tout cela, donc tout ce, voilà, qu'on limite l'exposition au radon à 100 becquerels donc par mètre cube. Ça va, c'est clair ce que vous dites. Bon, et on verra aussi que la nouvelle réglementation, hélas, elle s'améliore, mais c'est pas encore vraiment ça, quoi. Comment mesurer le radon? Donc, vous avez, on utilise deux types d'outils. Donc, je peux vous parler que de ceux qu'on utilise. Il y en a plusieurs, en fait. Donc, méthode la plus simple, bon, mesure intégrée, c'est-à-dire qu'on va exposer ce film, code alpha. Enfin, c'est un. Vous voyez, ça ressemble à un film photographique, les anciennes. Voilà. Et donc, les rayons alpha vont percuter, en fait, ce film, vont créer des traces. Et ensuite, on va développer, entre guillemets, donc ce film en le trempant dans un bain de soude. Et à partir de là, donc, on va pouvoir évaluer, en fait, la quantité donc, de becquerels de radon. Voilà. Il faut le laisser quand même au moins 2 mois pour avoir une valeur moyenne. Voilà, puisqu'on recalcule donc ensuite une moyenne. Donc ça, c'est un outil assez simple que nous, on utilise donc depuis plusieurs années. Et vous avez par exemple donc un résultat donc ici d'études. Donc c'est sur un rez-de-chaussée d'immeuble. Le film a été exposé pendant 80 jours. Et donc on arrive à 764, donc avec la marge d'incertitude qui est indiquée donc à côté. Donc 764, donc on est déjà ici au-dessus donc des 400 becquerels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Application donc dépistage, cartographie d'un bâtiment. On peut déposer ces films dans différentes pièces d'un bâtiment et ça nous permet donc de mieux repérer en fait comment migre finalement le radon dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on encourage toujours au moins le dépôt de 3 films de façon à avoir un petit peu plus d'informations sur cette migration. Parce que si vous analysez seulement, par exemple, dans une cave, vous ne savez pas du tout quelles sont les conséquences de ce rayonnement au niveau des pièces de vie. Vous ne vivez pas dans la cave, hein, donc il faut arriver à savoir finalement comment ça se passe dans les espaces de vie. Voilà. Donc bien sûr, c'est utilisable une seule fois, puisqu'une fois que le film a été donc utilisé, donc on ne peut plus le réutiliser. Deuxième outil, c'est le RAMON, donc Radon Monitor, que vous avez donc ici, qui est un appareil électrique un peu plus récent. Vous voyez qu'il y a donc possibilité d'afficher en fait la valeur du radon. Donc la première valeur que vous aurez, ce sera au bout de 48 heures. Première valeur, et puis donc première valeur un peu plus sérieuse, on va dire au bout d'une semaine. Et si vous le laissez donc votre RAMON pendant plusieurs semaines, il va chaque fois vous calculer, vous donner deux mesures, la mesure courte, short, c'est-à-dire des 7 derniers jours, et la mesure longue, qui est la moyenne depuis l'initialisation en fait du RAMON. Donc c'est intéressant justement pour faire des actions correctrices, pour suivre justement on peut faire des hypothèses, essayer d'ouvrir hein, des fenêtres ou au niveau de la cave peut-être commencer à faire des travaux et puis voir comment finalement l'impact ensuite au niveau des pièces. Donc c'est vrai que c'est un outil plus dynamique que le précédent, hein, que le code alpha. Mais bien sûr, bon, c'est un peu plus cher, mais peut-être l'acheter à plusieurs, dans une association, c'est peut-être des choses qui peuvent... voilà, c'est le genre d'outil qui peut circuler puisque c'est réutilisable autant de fois que vous le voulez. Donc c'est bien précisé, hein, ne pas se contenter hein, des premiers chiffres qui apparaissent. Hein, essayez de faire des mesures quand même sur plusieurs semaines parce que le radon fluctue hein, beaucoup selon la température extérieure, hein, selon la pression. Donc c'est bien hein, là aussi quand même d'avoir une valeur donc sur une période un peu longue si on veut avoir en plus quelque chose de plus précis. Voilà, donc le radon, admettons qu'il soit là, non, ou qu'il soit pas là, c'est-à-dire que première chose, les actions donc face au radon, c'est l'empêcher de rentrer dans le bâtiment. Donc l'empêcher de rentrer dans le bâtiment, eh bien c'est bien sûr bien isoler en fait le sol de la maison du sous-sol, quoi. Donc on va voir qu'il y a plusieurs façons hein, d'empêcher le radon d'entrer dans le bâtiment, sachant que de toute façon, ce type d'action n'est jamais suffisant seul et qu'il va falloir penser aussi à diluer le radon qui est présent ensuite quand même dans le bâtiment. Donc souvent, ce sont des actions donc, qui vont aller ensemble. Empêcher le radon d'entrer, donc étanchéifier, donc aujourd'hui on fait quand même des revêtements qu'on peut disposer, donc parce que si vous faites une dalle en béton, la dalle en béton elle n'est pas étanche, donc il y a toujours des fissures en fait dans le béton, et quel que soit finalement le nombre de fissures, on se rend compte qu'en fait le radon il arrive toujours à passer à travers la dalle, puisqu'il y a quand même, je rappelle, une pression en fait, hein, niveau du sol, donc qui va avoir par rapport à l'intérieur de la construction. Il y a une différence de pression, donc cet effet d'aspiration donc, va de toute façon tirer le radon même s'il y a très peu de fissures. Donc aujourd'hui, enfin, depuis quelques années quand même, il y a des nappes hein, qu'on peut mettre justement donc, sous les dalles et qui vont permettre de stopper. Donc bien attention, faire attention sur la mise en œuvre, de bien faire déborder en fait cette nappe, ne pas la faire arriver seulement au niveau des murs, parce que du coup, le radon va monter à travers les cloisons. Donc, voilà. Déjà, là, je vous donne une idée de la technicité, quand même, un petit peu, que ça nécessite, la gestion donc du radon. Donc, utile en complément donc d'autres actions. Et quelque chose qui est vraiment recommandable, c'est de drainer l'interface sol-bâtiment, faire un vide sanitaire, hein, C'est une construction qui existe déjà, essayez d'évacuer s'il y a une cave, essayez au niveau de la cave de créer en fait un système, une ventilation qui va permettre d'évacuer le radon avant qu'il ne remonte dans la maison. Alors c'est vrai que si on y pense avant la construction, c'est beaucoup plus facile et peut-être moins coûteux, hein, dans certains cas, que d'essayer de corriger ensuite, hein, l'apport du radon dans la maison. Voilà. Et on verra que ça aussi, c'est un regret dans la nouvelle réglementation. On aurait pu être un peu plus exigeant sur les nouvelles constructions et peut-être exiger un niveau finalement admissible, un peu plus bas que celui donc qui va être mis en place. Ensuite, une fois qu'il est dans le bâtiment, donc on va essayer de le diluer. Voilà. Alors, il y a l'aération manuelle. Donc, j'ai bien mis efficacité aléatoire. Bon, manuelle, ça veut dire on ouvre les fenêtres. Hein. Donc, on ouvre les fenêtres et on va voir que suivant les cas, en fait, c'est efficace ou pas. Et puis, ventilation mécanique. Donc, il faut absolument éviter la mise en dépression des locaux. Donc, il va falloir mettre plutôt, finalement, si vous avez une ventilation double flux, plutôt régler votre ventilation de façon à ce que le bâtiment, à l'intérieur, l'air du bâtiment, donc ce soit en surpression plutôt qu'en dépression. Voilà. Donc, pour tous les habitats très confinés, bien sûr, la VMC semble absolument indispensable, quoi. Alors, pour la radioactivité, hein, mais aussi peut-être, vous le savez, pour le chimique ou pour les produits qu'on peut utiliser, produits chimiques qu'on utilise dans la maison ou même l'école, hein, dans les meubles, etc. Et puis même en termes de moisissures. Hein. Donc de toute façon, la ventilation, c'est vrai, ça semble absolument nécessaire. Ici, vous avez une simulation. Donc c'est un sol, j'attire votre attention sur un sol activité volumique de l'air extérieur, 10 becquerels par mètre cube. C'est plutôt faible, hein, c'est pas quelque chose de très élevé. Et pourtant, en mettant une cloche sur le sol, vous imaginez, hein, une cloche à fromage, sur une grande cloche posée sur le sol, avec absolument pas possibilité pour le radon de s'échapper. Vous voyez qu'on monte très très rapidement. Hein. En deux jours, on arrive facilement à 1000 becquerels. C'est quelque chose qu'on a pu vérifier, hein, justement. Dans un bâtiment très confiné, on a coupé la VMC. Sur deux jours, on est arrivé à 1000 becquerels. Et sur une zone non granitique. Et oui, parce que du radon, il y en a vraiment partout. Partout. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Oui ?
Ok, non, c'était juste que, comme vous parliez, que ça avait une demi-vie de 4 jours à peu près.
Oui.
Et vous faites une étude sur 2 jours, donc je veux savoir si vous aviez poussé sur une semaine.
Oui, en fait, il faut bien retenir que ce qu'on mesure, c'est aussi les descendants du radon. Hein. Donc, parce qu'en fait, vont arriver avec le radon, donc les descendants. Par contre, oui, non, c'est bien 1000 becquerels effectivement sur 2 jours. On l'a pas fait. Sur 3 jours, hein, ils y sont, les 3 jours, ils sont là. Hein. Là, vous avez les nombres de jours en dessous. Pardon. Oui, j'ai pas répondu correctement à votre question. D'accord. Donc, les 3 jours, on est à, je sais plus, à entre 1100, 1200. Voilà. Et vous voyez qu'on arrive quand même à des niveaux supérieurs à 3000. Lorsqu'on est donc à 30, 36 jours, 40 jours, voilà. Bon, mais même déjà là, hein, on est déjà à des niveaux très élevés au bout de 24, 23, 24 jours. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de retenir, que effectivement, donc sur, je rappelle, hein, sur un sol qui est pas granitique. Vous avez donc cet effet, hein, d'accumulation en fait du radon donc dans un espace qui est fermé, hein, je répète bien. Alors bien sûr, ce qu'il y a de positif, c'est ce qui est au-dessous, c'est-à-dire qu'on arrive à le réduire, hein, ce radon, lorsqu'on augmente en fait, on augmente donc le remplacement de l'air intérieur. Hein. Donc on peut arriver, selon le taux de renouvellement de l'air, à des niveaux donc de 34 becquerels par mètre cube. Voilà, et c'est ce qui se produit, hein, c'est-à-dire que pour arriver à ce type de ces chiffres-là, 34, 58, donc on règle hein, la VMC, on met donc en légère surpression pour éviter, pour limiter hein, l'effet d'aspiration donc du radon.
Voilà, donc je te passe. Donc si vous voulez parler, vous n'hésitez pas à lever la main et j'accourrai vers vous avec mon micro. Vous tenez bien comme ça pour qu'on vous entende.
J'ai oublié ma question en fait. Je voulais savoir si la géothermie favorisait l'entrée du radon, enfin les risques liés au radon.
Oui, bah oui, les puits canadiens, géothermie, surtout si justement celui qui a procéder à l'installation n'est pas sensible à ce problème du radon. C'est possible que ça devienne une voie d'entrée en fait du radon. Tout à fait.
Alors j'ai retrouvé ma question. Oui. C'était en moyenne le temps d'aération nécessaire pour le faire partir, hein, pour le chasser,
oui,
le vilain.
Alors ça va, bien sûr, ça va tout dépendre de l'espace, bien sûr, de votre maison, de la configuration. Il n'y a pas une réponse type en fait à cette question. Là justement, on va voir un exemple d'aération. C'est dans une école. Hein. Les deux cas là que je vais vous montrer, c'est une école primaire, école maternelle même. Là, c'est une salle de jeu. On a fait un dépistage radon. Vous voyez qu'on est donc au-dessus hein, des 1000 becquerels. 1000 becquerels, c'est le niveau, par exemple, qui peut faire que le préfet demande la fermeture d'une école. Alors, je dis bien qu'il peut, hein, c'est pas souvent le cas. Alors, dans un premier temps, on cherche toujours, avant de faire des travaux un peu plus importants, on cherche à limiter, en tout cas, justement, le niveau de radon. Donc ici, c'est important ce qui est écrit. Donc c'est une pièce, c'est une vieille école. Il n'y a pas de ventilation mécanique. Et donc on a décidé d'ouvrir, on a testé qu'en ouvrant les fenêtres pendant une heure, en fait on a une remontée du radon qui est plutôt modérée. Voilà. Donc c'était une solution qui s'est avérée finalement dans l'urgence, hein, à peu près satisfaisante. Deuxième cas, c'est toujours... Oui, non, pardon. Oui.
J'arrive.
Là, vous dites que vous ouvrez la fenêtre pendant une heure, ouais. Mais le radon, il met combien de temps pour revenir à cette... Parce que vous parlez des classes, vous n'allez pas l'ouvrir. Vous allez ouvrir une heure de hors classe, je dirais, surtout en hiver.
Oui, mais en situation d'urgence déjà.
Oui,
hein,
oui,
on est bien d'accord. Donc là, il a été décidé. Vous voyez que on a ouvert là, donc dans cette tranche horaire, on se rend compte que une heure, deux heures après, bon, c'est vrai, on a encore des niveaux de radon quoi qui sont à peu près acceptables. Donc il remonte tout doucement, mais il va bien finir effectivement par remonter. Donc, il va falloir à nouveau ouvrir la fenêtre. Mais c'est vraiment une mesure d'urgence, voilà, en attendant donc de faire d'autres types de travaux.
Hop là, on n'a pas entendu la question, du coup. Ouais, mais il n'y a que vous qui l'avez entendu. C'est dommage quand même. Ça doit être intéressant de votre question.
Plusieurs, mais bon, je ne vais pas interrompre madame. Vous dites une heure. Mais bien sûr, comme le radon va remonter, il faudrait avoir une fréquence d'ouverture de la fenêtre assez importante.
Oui.
Pour être sûr qu'on ne monte pas à des niveaux trop élevés.
Oui, c'est une école. Donc on peut très bien imaginer une ouverture des fenêtres, par exemple, avant que les enfants entrent dans la salle. Et à la fin peut-être de la matinée, ça c'est des choses qui se modulent en fonction de la situation. Mais je rappelle, c'est vraiment une mesure d'urgence, ça. C'est quand on ne veut pas fermer finalement la salle de classe. place en attendant de faire des travaux qui peuvent arriver hein, dans les jours, semaines qui arrivent. Hein, c'est pas non plus. De toute façon, il faut trouver une solution.
Est-ce qu'il y a des expériences qui sont faites pour un volume déterminé d'une pièce? Quel est le volume de renouvellement qu'il faudrait appliquer pour être sûr qu'on ne va pas remonter dans le taux du radon?
En fait, ça va tout dépendre de votre pièce, avec sa capacité d'échange d'air avec l'extérieur, sa capacité d'aspiration du radon qui est dans le sol. Donc, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. On peut pas donner un chiffre comme ça, en fait.
Mais avec une VMC classique, on a un roulement d'air, par exemple, qui peut être déterminé.
Mais vous allez l'adapter justement ce taux de renouvellement d'air à une situation bien précise. Mmh. Et le taux de renouvellement d'air, il va être différent donc d'un bâti à un autre. Oui. C'est ça en fait. Il n'y a pas une valeur comme ça qui serait fixe et pour tout le monde. Alors s'il y a une moyenne, je ne connais pas. Et puis à la limite, les moyennes, c'est intéressant sur le plan peut-être statistique. Oui, mais du coup.
Chacun est un cas particulier, je comprends bien.
Merci. Alors ici dans ce cas donc un exemple c'est la suivante. Merde, ça marche plus. Alors inefficace. Donc cette fois-ci on est toujours dans la même école maternelle, mais on est dans le dortoir. Voilà. Et important, la pièce elle est équipée d'un extracteur mécanique, donc simple flux qui fonctionne en permanence. Donc on a opéré à la même opération, on a ouvert les fenêtres pendant une heure. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le profil ici de la courbe, elle n'est vraiment pas la même que la précédente. C'est-à-dire qu'on a une remontée très très rapide du niveau de radon donc dans la pièce. Parce que l'extracteur d'air va tirer encore, c'est toujours ce phénomène d'aspiration donc du radon. Donc dès qu'on aura fermé la fenêtre... on va donc aspirer donc beaucoup de radon et on va se retrouver donc dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Quoi. Donc là, c'était encore plus urgent de faire les travaux très, très rapidement. Voilà, donc ça, ce sont des exemples pour vous montrer que des configurations sont extrêmement diverses, qu'il n'y a pas vraiment de solution type. Et ça, ce problème, on va aussi le retrouver dans la remédiation, c'est-à-dire comment, si on trouve du radon dans sa maison, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un vrai problème, donc, aujourd'hui. Une petite précision, donc, si dans la construction du bâtiment, je reviens sur le fait qu'il faut vraiment essayer de limiter le contact entre le terrain et le bâtiment. Donc, soit si vous avez la possibilité faire un vide sanitaire, donc il peut permettre une évacuation passive. Et puis, si c'est pas suffisant, on peut toujours ensuite installer un extracteur d'air qui permettra justement d'éviter de remonter le radon dans la maison. Et puis, s'il n'y a pas possibilité de faire un vide sanitaire, au moins un hérisson avec drain, qui aura la même fonction de tirer ce radon sur l'extérieur de la maison.
C'est quoi un hérisson?
Oui, c'est en dessous de la dalle, souvent on dépose des graviers, une couche de gravier qui permet déjà au niveau de l'humidité des fois d'assainir la maison. Et puis ça fait un mélange d'air de gravier. Et donc là au milieu de ce hérisson, ça va permettre si on glisse un drain à l'intérieur. Et on peut faire de l'extraction là aussi passive ou active, si ce n'est pas suffisant, mettre un petit ventilateur en sortie pour sortir le radon, pour tirer l'air au niveau du hérisson. Donc, étanchéifier, on en a parlé, et drainer l'interface sol-bâtiment. Essayer le plus possible de mettre une membrane étanche chaque fois que c'est possible. Bon, mais ça, à la construction, c'est possible, mais dans la rénovation, c'est pas possible. Et assurer le renouvellement d'air correct des pièces, éviter la mise en dépression. Donc attention aux puits canadiens, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être eux aussi une source d'introduction du radon dans la maison s'il est mal installé. Alors maintenant, les professionnels qui installent les puits canadiens commencent à connaître ces problèmes-là, donc... ils prennent des précautions. Donc là encore, la nécessité, si vous faites construire, de vous adresser à des professionnels quand même qui ont quelques connaissances en termes de radon, hein, qui connaissent cette problématique. Je passe ensuite. Ça, c'est les cupis canadiens. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'était, donc je vous ai mis le schéma. Donc, en fait, le puits canadien, c'est un dispositif qui permet, par un système donc de tuyaux installés donc dans le sol, de bénéficier en fait d'une température à peu près constante, hein, dans le sol, et de rafraîchir donc en été, et au contraire donc un peu réchauffer l'air donc en hiver. Alors, la réglementation, je vais vous parler quand même de la réglementation actuelle, même si, elle vit peut-être ces derniers jours, enfin, on l'espère, ou peut-être ces dernières années, si c'était aussi long que la première. Donc, il y a eu la directive 96-29 Euratom en 1996. Une ordonnance donc en France, puisque vous savez que les directives ensuite européennes, pour être appliquées, il faut qu'elles soient transposées dans le droit européen. Et vous voyez qu'en fait, au niveau des établissements recevant du public, la réglementation n'est devenue opérationnelle qu'en 2004, soit 8 ans après la directive, hein, pour avoir tous les décrets, que ce soit pour les agréments ou vraiment pour les décrets d'application. Et en ce qui concerne les lieux de travail, certains lieux de travail et les établissements thermaux, donc il a fallu attendre même 14 ans. Et pour l'habitat, rien du tout. C'est-à-dire que, voilà, il y a on disait, oui, ben c'est bien, il faut rechercher le radon dans les habitats, mais en fait, il n'y avait aucune obligation donc de contrôle au niveau de vos maisons, hein, là où vous habitez et où vous passez les deux tiers de votre temps. Donc, principe de base, dépistage obligatoire dans certaines zones géographiques, donc on va voir donc lesquelles. Et puis, pour certaines catégories de bâtiments, donc les ERP, établissements recevant du public, les hôpitaux, les établissements scolaires, hein, les crèches, mais pas les aides maternelles, par exemple. Et on a su qu'à Bessines-sur-Gartempe, il y avait une aide maternelle qui gardait des enfants depuis plusieurs années et dont la maison était construite donc sur des remblais miniers. La maison donc a finalement été détruite quand ils s'en sont rendus compte, mais vraiment ça n'a pas été fait très très rapidement, et du coup ça veut dire que il y a plusieurs pendant plusieurs années les enfants ont été exposés à des niveaux justement de radon très très élevés. Pour certaines catégories de bâtiments et mesures effectuées par des organismes agréés, donc il y a eu des décrets, enfin des pour qui est habilité finalement à faire du dépistage radon. Il y avait aussi, par contre, il y avait un vide, hein, au niveau du... Parce qu'il y a le dépistage et ensuite, il faut faire un diagnostic. Si on trouve beaucoup de radon, il faut arriver à faire quand même quelque chose un peu plus approfondi, un peu plus poussé. Et là, c'était pas très, très net au niveau de la réglementation. Et des niveaux d'action définis, hein, les 400 becquerels et 1000 becquerels pour agir en urgence. Alors, je vous ai dit que c'était réservé à certaines zones géographiques. Et donc, l'administration, en fait, considère que le radon, il suit les départements. Puisqu'on a fait, on a rendu l'obligation de mesure seulement dans 31 départements, donc en France. Et puis, et en plus, à partir de moyennes, en fait, départementales. Voilà. Donc, on a procédé à plusieurs mesures, des mesures d'ailleurs très très inégales. Hein. Il y avait certains départements, on a quelques dizaines de mesures, sur d'autres on en a un peu plus. Bon, au total, c'est 10 000 mesures sur toute la France. Et c'est là-dessus finalement qu'on a basé la réglementation. Pour référence, quand même, la Suisse a fait le travail un peu plus sérieusement. Ils ont fait plus de 100 000 mesures. Pour un pays qui est moins de 10 fois la France. Donc vous voyez que c'est pas suffisamment d'analyse, un maillage très très inégal, hein, suivant les départements. Et puis on a dit tous ceux qui sont au-dessus de 100 becquerels, la moyenne au-dessus de 100 becquerels, on impose donc, les mesures dans les ERP, hein, toujours, et lieu de travail. Et pour les autres, on ne fait rien. Voilà. Bon, moi, je pense à l'Ardèche. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Ardèche, le nord, le sud. On a quand même déjà une configuration de terrain qui est quand même complètement différente, hein, au niveau des sols. Bien heureusement, bon, l'Ardèche, c'est quand même la moyenne était au-dessus de 100. Donc, du coup, la réglementation s'est imposée à tout le département de l'Ardèche. Mais pour d'autres départements, c'est l'inverse. C'est-à-dire que finalement, une moyenne, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que si vous êtes sur une zone granitique, en fait, vous allez être quand même beaucoup plus sensible, donc justement, au radon. Et puis le sol, il peut varier donc à quelques kilomètres près. Donc vous avez des natures de sol qui peuvent changer, quoi. Donc oui, le radon ne respecte pas les limites départementales. Donc ça, c'est voilà les ERP, donc tout ce qu'on considère comme établissement recevant du public. Et concernant donc les lieux de travail, ce sont essentiellement donc les lieux de travail donc souterrains et les établissements thermaux. Et en plus, c'était les lieux donc les lieux de travail souterrains, c'est par exemple donc des parkings, hein, bon, et différents donc où on va effectivement trouver donc des salariés qui restent donc plus d'une heure en fait sur leur lieu de travail, enfin en tout cas pour ce qu'ils ont à faire. Et quant à l'habitat, hein, je vous l'ai dit, aucune obligation de mesure, alors qu'il s'agit du principal lieu d'exposition.
Si vous avez des questions, hein, c'est ce qu'on avait dit, Christian, Sylviane, vous n'hésitez pas à lever la main pendant le. Voilà.
Oui, vous pouvez. Voilà. Oui.
J'ai deux questions. La première. Quand vous dites qu'un appartement, un logement est en sous-pression.
En dépression.
En général, et notamment l'hiver, du fait qu'ils sont chauffés, ça crée une convection. Mais en étant chauffé, est-ce que ça augmente pas la pression, justement ? D'autant plus si le logement est bien isolé ?
Non, parce que la chaleur, ça va aspirer, ça va plutôt créer un effet cheminée, non, ce qu'on appelle.
Mais si le logement est bien isolé, l'air circule peu et en fait, en chauffant, on augmente la pression.
Oui, mais bon, il est compressible, donc c'est un gaz. Moi, il me semble qu'il, de toute façon, il va quand même sortir du sol. Enfin,
bon, l'autre question,
c'est. Et il peut augmenter indéfiniment, on l'a vu oui, là hein, oui, tout oui. à l'heure, hein, sur le schéma oui. avec la courbe.
Oui.
Sauf qu'à un moment, effectivement, il y a une espèce de saturation. Mmh. On l'a bien vu avec la courbe
asymptotique. Oui. Et l'autre question, c'est par rapport à l'eau. Vous avez dit que c'était. Mmh. Ça se diluait dans l'eau.
Oui.
Et donc, si on a un puits. Comment on fait pour se débarrasser du radon
vous avez un puits souterrain ?
Oui, si on a un puits
souterrain,
oui, voilà,
oui. Qui, oui, c'est vrai que c'est délicat. Oui, c'est une situation qui est un peu. Bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des puits vraiment enterrés hein, sous leur maison. Parce que vous pouvez avoir un captage d'eau, mais qui peut se faire donc à l'extérieur de la maison. Et à ce moment-là, souvent, vous avez une réserve donc, qui va être en contact avec l'air. Donc, voilà, ça va dégazer, en fait.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il ne faut pas l'aérer, l'eau, du coup,
oui.
pour...
Tant que c'est en contact avec l'air, donc, ça va s'aérer. Mais là, du coup, si vous puisez de l'eau qui est chargée donc, en radon, que vous l'amenez dans la maison, en fait, ça va se dégazer dans votre maison, en fait.
Oui.
Vous parlez d'un puits, mais en fait, un puits, on extrait de l'eau de la nappe phréatique. Donc, en fait, on ne peut rien faire, quoi. Enfin,
on ne peut rien faire, c'est-à-dire, une fois
pas,
qu'il est dessous...
On ne peut pas aérer un,
non.
Un puits qui vient de la nappe phréatique, puisque c'est des puits par pompage, enfin.
Oui, c'est pour ça que je dis, de toute façon,
parce
effectivement,
que des puits
il va
avec
passer
des
par l'eau,
des pierres,
où il va suivre la canalisation, plus, et il va se retrouver dans la maison,
ouais, c'est ça, ouais.
Tout à fait.
Donc on laisse tomber, je veux dire, on continue avec nos puits, c'est bon quoi.
Bien, donc les 400, peut-être qu'on peut passer vite, on en a déjà parlé. Donc 400 becquerels, 1000 becquerels par mètre cube. Si voilà, donc si le seuil donc est atteint, donc action correctrice, et puis ensuite derrière on vérifie hein, si une fois que on a fait les travaux qu'on pensait nécessaires et utiles, donc on fait une vérification. Contrôle donc tous les 10 ans. Voilà, donc on est actuellement plutôt dans les deuxièmes tranches puisque ça a été donc initié en 2004, donc on continue encore à faire donc les deuxièmes tranches là de dépistage, de contrôle. Donc bien retenir quand même que 400 becquerels, donc c'est pas un seuil d'innocuité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que à 400 becquerels, au-dessous de 400 becquerels, je risque rien et je suis tranquille, et etc. La CIPR, donc Commission internationale de radioprotection, recommande un niveau d'action entre 3 donc, et 10. Alors, il s'agit, j'aurais dû préciser, millisieverts par an, d'accord. Or, avec 400 becquerels, c'est passé dessous. On est plutôt donc autour de 16 millisieverts par an. Alors, le sievert, pour millisievert, sievert, c'est à partir de becquerel, en fait, c'est quelle va être finalement l'action hein, de cette radioactivité donc sur votre corps. Voilà, on va dire, en gros, hein, donc c'est ça. Donc, la réglementation internationale, par exemple, pour la radioactivité artificielle, elle limite l'exposition à 1 millisievert par an. Voilà. Donc vous voyez que quand même, donc c'est pas rien d'entre déjà d'être exposé donc avec ces 400 becquerels par mètre cube, donc en disant qu'on est plutôt autour de 16 millisieverts par an. Et tout ça en plus, ça bouge parce que sans arrêt, au fur et à mesure des années, donc on se rend compte en fait c'est toujours plus nocif que ce qu'on avait pensé avant. Voilà, on a eu tendance à minimiser en fait les effets. Donc, ça risque là aussi hein, les chiffres de changer. Le contrôle doit être fait donc par un organisme agréé. Donc, la CREAD est agréée donc pour la mesure dans les lieux ouverts au public. Et c'est ce qui nous a permis aussi hein, d'avoir une certaine expérience en fait justement au niveau de la détection. Et alors, je dirais pas au niveau de la remédiation parce qu'on n'est pas des professionnels du bâtiment, mais en tout cas, du coup, on a un peu quelques idées sur comment on peut remédier donc au problème du radon. La CRIRAD a été très moteur en fait dans la mise en place hein, de la réglementation. En 88, la CRIRAD donc s'est créée en 86 et dès 88, donc la CRIRAD donc a alerté hein, sur cette problématique radon. Donc en France. Donc on a dit qu'on pouvait avoir des disparités selon les sols, c'est-à-dire dans un département en fait, d'un kilomètre à un autre, on peut avoir des mesures complètement différentes qui tiennent à la nature du sol, bon, bien sûr au type de bâtiment. Et ici on a même un exemple dans un établissement scolaire en Ardèche, en bordure du Rhône. Donc les mesures, voilà ce qu'elles avaient donné. Donc ce sont des salles qui sont en enfilade. Et donc on avait des niveaux en fait tout au même niveau hein, les salles de classe, et on avait donc des mesures en fait de radon qui étaient vraiment très disparates. Voilà, donc la question qui nous avait été posée, pourquoi ? Et effectivement, donc on s'est rendu compte que l'ancien vide sanitaire avait été comblé. Et du coup, il ne jouait plus du tout son rôle d'évacuation du radon. Donc, il a été décaissé. Et donc, voilà. Du coup, on a. Donc, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble, en fait, du bâtiment pour arriver vraiment à régler ces problèmes. Je passe un peu vite, peut-être, pour laisser un peu plus de place aux questions. La nouvelle directive, donc, c'est la directive 2013-59. Donc, elle est à venir. Le niveau de référence qui a été choisi par la France, donc c'est 300 becquerels par mètre cube pour tout type de bâtiment. Mais en fait, elle ne va pas s'appliquer de façon obligatoire hein, dans tous les bâtiments. Donc, c'est bien en retrait par rapport à la recommandation OMS hein, qui dit il faut ramener le radon à 100 becquerels par mètre cube. Et si vraiment c'est pas possible dans les zones très 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 chargées donc en uranium et en radon, à ce moment-là donc tolérer 300 becquerels par mètre cube. Mais en tout cas donc essayer d'abaisser le plus souvent possible donc à 100. Et puis, on est en retrait par rapport donc à la recommandation donc Euratom 90-143 qui avait recommandé donc pour les bâtiments neufs 200 becquerels par mètre cube. Finalement, sans doute, la réglementation ne différenciera pas les bâtiments neufs des plus anciens. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment le moment où on construit, où on peut agir de façon efficace. Un autre élément de la réglementation, ce sont les plans d'action nationaux pour la gestion à long terme, donc pour tous les types de bâtiments, en particulier les plans donc santé-environnement, plans nationaux donc santé-environnement. Donc le dernier, là, il est sur le point d'être mis en œuvre au niveau régional. Voilà, et la CRIRAD a porté très haut une demande parce qu'on a dit c'est pas suffisant de mesurer, parce que du coup maintenant on mesure, enfin bon, tant mieux, hein, c'est bien de mesurer, mais en même temps on a très peu de solutions, les professionnels en connaissent mal les solutions, donc pour résoudre justement les problèmes de radon. Donc il y a vraiment un effort énorme à faire là-dessus. Faut savoir qu'aux États-Unis, en Suède, il existe des formations spécifiques de remédiateurs radon, des gens qui sont spécialisés donc là-dessus et qui sont capables d'apporter des solutions adéquates. Concerne les codes de construction, donc il n'y a pas d'obligation. Bon, on attend vraiment là maintenant les textes. Hein, en fait, on est un peu dans l'expectative. La différence, quand même notoire. L'ancienne carte, elle était basée, donc je vous rappelle, sur la délimitation départementale. Donc maintenant, on va plutôt prendre en compte donc la délimitation donc communale, ce qui fait que donc jusque-là, enfin encore aujourd'hui, hein, on a 31 départements prioritaires dans lesquels donc il y a des obligations. Et dans la nouvelle carte, donc on aura 55 départements, mais bon, pas forcément dans leur totalité. Donc, et là, c'est seulement cette cartographie basée sur le potentiel radon du terrain qui ne prend en compte que la géologie. Donc voilà, exemple pour la région. Hein. Donc vous avez les différences donc de délimitation, hein, avec l'ancienne réglementation donc et la nouvelle. Un peu plus précisément donc sur le.
Il reste un quart d'heure, donc oui. Oulala, voilà, si vous voulez poser des questions.
J'avance alors.
Peut-être.
Bon, je pense que ça on en a déjà un peu parlé. Donc pas d'obligation de contrôle systématique. Voilà, seulement incitation à la prise d'initiative locale pour sensibiliser la population. Donc on reste un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va créer des zones prioritaires et puis les autres, c'est au bon vouloir peut-être des élus de faire des choses donc chez eux ou pas. Important quand même, si je veux souligner, c'est l'obligation d'information, c'est-à-dire si aujourd'hui vous achetez une maison dans une zone qui a un fort potentiel radon, donc le vendeur, il est obligé de vous le signaler au moment de la vente. Alors, ce qui n'était pas le cas donc jusque-là. Oui.
Pour la protection au niveau des sols, bon, par rapport, quand on a une maison individuelle qui n'a pas de vide sanitaire, bon, oui. Il y a l'effet hérisson avec le système du drainage, mais après coup, c'est pas possible.
Oui.
Après coup, c'est pas possible. Donc, quel est le matériau qui est préconisé pour atténuer ce passage au niveau des sols? Vous n'avez pas donné le.
En rénovation, vous voulez dire?
En rénovation.
En rénovation, au niveau du sol, c'est très difficile d'agir. Alors, il y a des entreprises en Bretagne. Il y a une entreprise là. On a entendu parler. On n'a pas vraiment vu, donc on peut pas trop dire si c'est efficace ou pas. Mais effectivement, ils essayent de creuser en fait dans la dalle et de pouvoir donc monter des tuyaux en fait et sortir en fait le radon, faire sortir le tuyau du toit. Ou parfois, il y a d'autres techniques aussi au niveau donc un peu plus bas, au niveau du sol, un peu loin des murs du bâtiment. Voilà.
Moi,
mais c'est vrai que oui.
J'avais compris qu'on pouvait dérouler un matériau. Isolant.
Oui, mais il faut, c'est avant la construction.
Et on ne peut pas le mettre sur la dalle.
après sur la dalle, mais du coup après vous avez, il faut refaire une dalle donc par-dessus. Après ça dépend
Pas forcément, si c'est un revêtement.
Je pense que c'est plutôt quelque chose de synthétique, c'est pas un revêtement. C'est quelque chose qui doit être fragile.
Sous un plancher.
Vous n'allez pas pouvoir passer. Il faut vraiment le faire déborder des murs. C'est compliqué. Enfin voilà. Peut-être c'est possible, mais en tout cas c'est compliqué. Alors c'est beaucoup plus simple de le mettre quand on construit.
Ah ben bien sûr, mais malheureusement. On est quand même une majorité dans le cas où on a déjà la maison.
Mais du coup, il faut peut-être essayer d'explorer donc, ces pistes-là, de pouvoir pomper effectivement donc, ce radon et le sortir, en fait.
Cette histoire de signaler, de faire des mesures du radon, enfin, cette obligation, ça date de quand ? J'ai jamais entendu ça, moi.
De signaler qu'il y a...
Tu sais, quand on vend une maison ou quand on
faire vérifier la montre, tout ça. Ça date de 2017, c'est pas bien vieux.
2017, mais c'est pas encore, j'ai jamais entendu
j'ai quelqu'un est passé sur le stand de la CRIRAD et donc qui a effectivement a été étonné d'avoir été donc averti justement de ça par ils ont acheté une maison et on leur a dit que leur maison elle était sur une zone sur un sol géologique à fort potentiel radon.
Mais c'est un truc à faire descendre les prix, ça. Enfin, c'est un fou comme ça.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est pour ça que
le certificat radon, les agences et tout ça dans l'immobilier, ils étaient absolus. À un moment, il y a
c'est
eu l'idée.
C'est juste une indication. Oui, c'est non, tout, non, quoi. Mais
il y a eu l'idée effectivement d'obliger d'avoir un certificat radon pour les maisons. Mais apparemment, il y a un marasme de l'immobilier et donc c'est une idée finalement qui est plutôt passée à la trappe.
Voilà. Ouais. Enfin, je pense que c'est plus une indication. C'est comme on n'a pas l'obligation de mettre une terre, par exemple. C'est fortement conseillé, mais c'est juste une indication. Donc en fait, cette histoire de faire un relevé de radon, c'est plus une indication, dans l'esprit, quoi.
C'est pas une mesure, là, c'est vraiment une information seulement.
Bah si, je sais pas, mais si on achète une maison qui est pleine de radon et que le vendeur nous l'a pas dit, ça peut coûter très cher après.
Oui, c'est une information, tout à fait. On aurait pu exiger que le vendeur fournisse un certificat indiquant qu'il n'y a pas de radon dans la maison, en faisant des mesures. C'est impossible, pourquoi pas. Ça se mesure.
Oui, vous parlez beaucoup de maisons et les immeubles sont-ils concernés aussi dans les villes et tout ça ?
Oui, mais sans doute un peu moins. C'est pour ça que nous, on pense qu'il vaudrait beaucoup mieux réfléchir en termes de type d'habitat. C'est-à-dire concentrer vraiment les efforts, bon, par rapport bien sûr à l'exhalation radon du sol, mais aussi par rapport donc aux habitats, s'ils sont enterrés, semi-enterrés, habitats individuels, voilà. Mais la nouvelle réglementation, elle va sans doute prendre en compte les catégories de bâtiments. Ceci dit, il n'y a pas de règle générale non plus par rapport à ça. La mesure, c'est la seule façon de savoir. Oui,
les immeubles sont moins touchés.
Sans doute, mais peut-être que ce n'est pas général non plus.
Actuellement, la mesure sur des terrains constructibles mais sans maison, la mesure préventive, on va dire, pour avant de construire une maison, c'est pas possible.
C'est compliqué, oui. D'accord. C'est un peu compliqué, mais donc du coup, il vaut mieux se mettre dans la situation que de toute façon, surtout si on veut faire une maison isolée, il vaut mieux faire les choses comme il faut, donc dès le départ, mettre cette protection, donc... protection entre guillemets, donc radon, penser peut-être aux vitres sanitaires, aux hérissons, essayer de d'envisager justement la possibilité même d'avoir une ventilation donc dans un premier temps passive, mais peut-être active si on se rend compte que dans la maison ensuite il y a du radon. Tout à fait.
Bonjour Maxime Tassin, architecte. Je voulais savoir quand est-ce que cette législation va avoir lieu, parce que moi j'ai des appareils de mesure de radon, j'en mesure, tout le monde s'en fout. J'interviens dans des équipes de maîtrise d'œuvre. On me le demande jamais, absolument jamais, alors que Et quand j'en mesure, c'est parfois beaucoup. Et alors, je préviens les gens, mais c'est pas demandé en fait. Les maîtres d'ouvrage ne le demandent pas, et les équipes de maîtrise d'œuvre ne sont pas au courant. Enfin, quand est-ce que cette... Parce que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que la carte allait changer, parce que cette carte était absurde. Nous, on sait beaucoup, dans l'Isère, on a beaucoup de radon du côté de la Mure, du côté du sud-est de l'Isère. Là, il y en a beaucoup, on en mesure régulièrement. Et Quand est-ce qu'elle va être applicable? Parce que du coup, on va avoir un élément pour...
Oui, ben, nous aussi, on aimerait bien, parce qu'elle devait avoir des décrets d'application là en février 2018. Donc, d'accord, on attend maintenant. Il faut absolument qu'il y ait les décrets d'application. Et même pour les agréments, les organismes habilités pour le dépistage, pour le diagnostic, tout ça, c'est tout à mettre en œuvre, ça.
D'accord. D'accord, donc c'est tout, c'est imminent, quoi.
Oui, enfin, ils ont quand même annoncé la fin du premier trimestre, maintenant, 2018. Mais bon, on a l'impression un petit peu, chaque fois, qu'on recule de date en date.
D'accord, merci bien.
Donc, à suivre.
Oui.
Je change un petit peu le sujet. Qu'en est-il des eaux en bouteille qui viennent de zones fortement chargées en radon?
Bon, la plupart, ils ont éliminé, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elles dégazent, en fait, elles enlèvent. Hein, voilà, elles les dégazent et ensuite elles remettent du gaz, d'après ce que je sais, hein, en gros. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Mais peut-être, Roland, tu as peut-être autre...
Voilà, j'aimerais savoir ce qu'il en est des lieux climatisés. Pour le radon, est-ce qu'il y a tendance à y en avoir plus ou c'est pareil que... Quand on peut ouvrir les fenêtres ou pas?
Alors, les lieux climatisés, c'est-à-dire que vous, donc de toute façon, vous faites rentrer de l'air extérieur.
Voilà,
et donc après, est-ce que ça met le bâtiment sur pression, dépression, la climatisation? Est-ce que ça se règle? Oui.
Je voulais dire par rapport à des fenêtres normales, quand on est dans des lieux climatisés, est-ce qu'il y a plus de risques qu'il y ait plus de radon, moins, ou ça n'a rien à voir?
De façon générale, je pense qu'on peut pas bien répondre à cette question-là. Il faudrait mesurer, là aussi, moi, j'ai pas eu d'expérience, j'ai pas entendu. Mais mesurer, quoi, il faudrait mesurer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Quand vous parlez climatisation, vous pensez à l'été ou à l'hiver? Parce que c'est surtout l'hiver que le radon pose problème.
Donc, climatiser, c'est en été ou en hiver? C'est oui, en été ou en hiver?
En permanence, elle dit la dame.
Ah, des lieux où il y a la climatisation en permanence. Ok, aucune idée. Bon, est-ce qu'il y a...
À mon avis, on n'a pas fait de contrôle particulier sur un lieu particulier qui ne fonctionnerait qu'avec de la climatisation été, hiver, etc. Voilà, moi, ce que je ne peux pas en parler, ce sur quoi Sylviane a parlé, effectivement, ce sont tous les lieux qu'on connaît. Les problèmes de puits canadiens, de type de bâtiment, etc., etc.
Oui, parce qu'en fait, on est un organisme de mesure. Bon, on s'est intéressé quand même vraiment au sujet. On a essayé de comprendre hein, quand même d'où ça venait. Mais on n'est pas des remédiateurs radon. On n'est pas des professionnels du bâtiment. Et voilà, donc ça, c'est un autre boulot encore.
Oui. Vous vendez votre appareil là, donc réutilisable, entre 200 et 300.
Pourquoi 276 euros précisément.
Voilà. Vous ne faites pas de la location?
Non, on n'a pas mis en location parce qu'en fait, c'est des appareils quand même qui se gardent un peu longtemps.
Oui, mais avec une garantie. Quoi.
Oui, oui. Mais donc, du coup, il faudrait avoir un certain stock. Après, ouais. Est-ce que donc, les professionnels donc, s'équipent parce qu'eux l'utilisent souvent? Peut-être des associations, ça peut être acheté dans une association, faire ouais, tourner ouais. Ou dans une commune, quoi.
Oui, dans une commune, oui.
Voilà, on inciterait plutôt à ça. Bon, pour le moment, okay. En tout cas, on ne fait pas de location. Bon, par contre, vous avez les codes alpha, donc si vous voulez mesurer ponctuellement, enfin mesurer, détecter ponctuellement donc, du radon. Merci. Merci à vous.